Ce matin, en bas de l'échelle chez Maman Wauquiez, le soir en haut de la roue chez une duchesse. Voilà Paris. C'est ainsi que Philippe Thiérot fait parler Vautrin, le célèbre personnage de Balzac, en ajustant les mots à sa bulle tout en lui restant fidèle. L'écrivain insatiable, père d'une œuvre gigantesque, s'est inspiré, a inspiré et nourrit encore tant d'imaginaires. Le monde de Balzac sur tous les tons, en images, en tableaux, en carton, au cœur de la comédie humaine de la grande table d'aujourd'hui. Puis les mots de Balzac répondront dans la palette de Soutine dont Ralph Dutly raconte et complète l'histoire. L'écrivain traducteur est aujourd'hui l'invité du portrait. Il est l'heure de passer à table. En guise d'éveil papille, voici l'éphéméride du jour. Évocation d'un autre 22 août. Le 22 août 1980, c'était la disparition de l'écrivain Max-Paul Fouché.
En écrivant un roman, on touche la liberté. Lorsqu'on écrit un essai, ou même des livres de poèmes, comme j'ai fait précédemment, ou des livres sur l'art, eh bien, on ne sent pas cette liberté. Mais là, les personnages sont libres, font ce qu'ils veulent. Un tel, je décidais sa mort, il devait mourir, il ne mourait pas, au contraire. Et c'était un autre qui prenait sa place. Et ainsi de suite. Alors, j'ai eu la sensation de la liberté des personnages de ce livre, et même de la liberté des situations. Et ça m'a beaucoup passionné.
Des personnages de romans qui sont libres et se réincarnent à l'infini, y compris dans les œuvres des autres. Tel est le cas de la comédie humaine et de son père Balzac. Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui autour de la grande table Yves Gagneux, bonjour.
Bonjour.
Directeur de la maison de Balzac à Paris. Ségolène Le Maine, professeur d'histoire de l'art à l'université Paris-Ouest et spécialiste de l'art français du 19e siècle, bonjour. Bonjour. Et Philippe Thiérot, écrivain et scénariste de bande dessinée, auteur de deux albums adaptés du Père Goriot. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Balzac et ses artistes, ça a d'abord été Balzac et les artistes de son temps. Dans cette exposition à la Maison Balzac, Yves Gagneux, on voit qu'il était malgré tout assez entouré.
Oui, on imagine souvent l'écrivain tout seul à sa table de travail, en train d'œuvrer la nuit essentiellement à une œuvre immense, complètement indépendant, sans personne autour de lui. Ce n'est pas ça du tout. Si Balzac avait été seul, nous n'aurions pas la comédie humaine. Balzac a fréquenté énormément d'artistes de son époque, il les a pratiquement tous connus, il a entretenu des relations complexes, parfois très amicales, parfois très compliquées, parfois très difficiles, avec la quasi-totalité des artistes de son temps, qu'il s'agisse d'Alphonse de Lamartine, d'Alexandre Dumas, avec qui il ne s'entendait pas du tout, de Victor Hugo, avec qui il a souvent déjeuné, de Georges Sand,
de Théophile Gauthier,
enfin, avec des gens avec qui il a été très ami, et puis d'autres artistes que l'on connaît un peu moins bien, mais qui ont été déterminants sur son œuvre.
Ségolène Le Maine, on a le sentiment que cette fréquentation que Balzac pouvait avoir des artistes autour, c'était aussi pour puiser des personnages en eux, pour faire des mélanges, c'était aussi des personnages qui l'inspiraient.
Oui, il a fréquenté à la fois les écrivains, les artistes, toute la société de son temps, tout ce microcosme qui a inspiré en effet sa comédie humaine, et cette multitude de personnages. Il s'est beaucoup inspiré de la façon dont les artistes de son temps, en particulier ceux qui s'intéressaient au journalisme et à la caricature, ont été des grands observateurs. Et à leur façon de regarder, à leur façon de voir par des petits détails, et puis ensuite des grands plans sur Paris. Enfin, il y a des modes de vision qui sont très intéressants et qu'il a certainement repéré chez ses contemporains, dessinateurs et illustrateurs.
Ce qui l'a intéressé, notamment autour de lui, c'est les artistes visuels. Vous parliez des caricaturistes, des gens de la presse. Justement, Philippe Thiérot, vous avez adapté le Père Goriot en bande dessinée. Comment est-ce qu'on fait le choix à la fois de faire un travail de recherche sur l'iconographie du 19e siècle, sur comment était Paris, etc. Et en même temps, décider d'en faire quelque chose avec les codes de la bande dessinée?
Alors, tout ce qui est recherche visuelle, clairement, ça a été le travail du dessinateur, donc Bruno Duhamel, qui s'est beaucoup investi dans ce travail. Moi, avec le co-scénariste, donc Thierry Lamy, on s'est vraiment intéressé exclusivement au texte. Voilà, donc nous, notre travail, ça a été de rendre vivant ce texte en format bande dessinée, donc au niveau du découpage des pages, des séquences. Et Bruno, lui, s'est chargé vraiment de tout ce qui était... il a fait beaucoup de recherches sur tout ce qui était costumes, sur tout ce qui était décors. Vraiment, c'est vraiment très bien documenté. La première fois qu'on s'est rencontré avec Bruno pour démarrer ce projet, c'était à la maison de Balzac, Voilà, c'est là qu'on s'est rencontrés en vrai. Et donc, on avait été voir à ce moment-là l'exposition permanente et temporaire. Et...
Vous êtes allé, vous aussi, vous nourrir des images de la maison Balzac?
Oui, complètement. Et puis, alors, surtout, se nourrir du lieu. Et puis, là, donc, j'y suis retourné. Vraiment, le hasard a voulu que j'y retourne il y a peu de temps. Et donc, j'ai pu voir cette exposition sur Balzac et les artistes. Et puis, retourner dans cette pièce, quand même, qui pour moi est magique. Moi,
je suis très sensible. Le bureau dans lequel il écrivait.
Très sensible aux maisons d'artistes. Et voilà, son bureau, son fauteuil, un coffre, une bibliothèque.
Et la table.
Sa canne, sa canne, sa cafetière qui est un peu plus loin, etc. Enfin, voilà, moi, c'est, je sais pas, je sens des ondes, là. Et du coup, ça, pendant toute l'adaptation de ce roman, quand même, qui a été assez longue, ça m'a porté aussi.
Yves Gagneux, c'est quand même quelque chose d'un peu étonnant de voir que les imaginaires circulent comme ça et que finalement Balzac a en quelque sorte orchestré aussi la collaboration et la circulation de ces imaginaires avec les artistes de son temps.
Oui, d'abord Balzac est un écrivain qui a cette particularité de reconnaître qu'il est inspiré par les œuvres des autres. Et Philippe Thiroux parlait de la bande dessinée. Balzac a été un des premiers écrivains à s'intéresser véritablement aux illustrateurs. Il a rencontré beaucoup d'illustrateurs, il a lancé des illustrateurs en écrivant des articles souvent très, très importants pour Granville, pour Gavarni. Et il a, par exemple, nous montrons à la maison de Balzac actuellement, toute une série de gravures de Henri Monnier. Henri Monnier, on le connaît pas tellement aujourd'hui, ça a été un très grand dramaturge, ça a été un caricaturiste formidable. Et avant de faire tout cela, il a travaillé dans un ministère. Et on doit à Henri Monnier une des premières séries de caricatures particulièrement féroces du monde de la bureaucratie, bien avant Courteline. Et c'est d'une méchanceté inouïe. Et Balzac, en voyant ses gravures, va d'un seul coup voir arriver un roman, Les Employés. Nous y sommes. Balzac va donc puiser dans le dessin l'idée d'un roman.
Et dans cette idée justement de rencontre des artistes, il y avait quelque chose aussi d'une sorte de comédie humaine qui se passait autour de lui, c'est-à-dire qu'il y avait le salon de Delphine de Girardin dans lequel il savait qu'il pouvait rencontrer les artistes importants, artistes en herbe ou artistes influents déjà.
Oui, il y a même une illustration qui évoque cela, c'est une illustration de Granville qui s'appelle « Le thé artistique assaisonné de grands hommes ».
Vous pouvez nous le décrire ?
Et alors, dans cette gravure, on voit justement Delphine de Girardin entourée de Balzac, mais aussi de toutes sortes d'autres personnages.
On y voit Franz Liszt qui joue du piano, Georges Sand qui est accoudé sur le piano, Alexandre Dumas, Victor Hugo, Eugène Sue et Théophile Gautier, et Balzac naturellement à qui Delphine offre la tasse. C'est une de ces gravures que nous présentons actuellement au musée.
Ouais. Alors Balzac rencontre tous ces artistes qui sont autour de lui et lui-même, en écrivant ses romans, se met à les inspirer lui par sa personne, mais aussi par son œuvre. Mais sa personne aussi a beaucoup inspiré. La figure.
Oui, d'abord, la personne de Balzac est un peu contradictoire, puisque Balzac est un écrivain romantique, un écrivain qui fait vraiment rêver les femmes de son temps. Il est un écrivain dont les femmes ont l'impression que Balzac est le seul écrivain à les comprendre. C'est très important à cette époque-là. Et il n'a pas du tout l'allure de justement de ce qu'on pourrait attendre d'un tel poète. C'est-à-dire qu'on imaginerait quelqu'un d'élancé, de mince, de svelte, les yeux vers le ciel, et des cheveux bruns très courts, assez beau, assez portant à la rêverie. Et pas du tout. On a affaire à un homme qui est plutôt petit, qui a les joues rouges, qui n'a pas de cou, qui a les dents abîmées, et en même temps un regard de feu. Voilà. Donc ça, évidemment, ça n'a pas laissé insensibles les dessinateurs, et les caricaturistes se sont emparés avec jubilation de cette image de l'écrivain. Mais après, ils en ont fait ce que font tous les caricaturistes d'une époque, c'est-à-dire qu'ils vont
le symboliser
et en faire une déformation. Donc on n'a pas du tout la vision réelle de l'artiste, on a juste l'image que les caricaturiste souhaite donner de l'artiste à cette période.
Philippe Thiroux, vous, pour les personnages, justement, quand vous avez adapté Le Père Goriot, il a fallu à la fois s'inspirer de ce que l'on sait, de leur description, etc., et puis symboliser aussi. Alors, il y a eu des choix de texte et des choix de symboles visuels. Comment est-ce qu'on décide que tel passage du roman fait une scénette de bande dessinée ?
Écoutez, travailler sur Balzac, adapter Balzac, c'est du pain béni pour un auteur, parce que c'est... Goriot, c'est pas un roman très très long, mais malgré tout, il y a quand même beaucoup de matière. Et en fait, on savait qu'on allait devoir couper dans ce texte. Mais alors, du coup, ne garder vraiment que le meilleur du meilleur,
parce alors, que ce qu'on enlevait,
c'était comme travailler un très beau marbre, déjà qui est bien poli. Donc, Honnêtement, enfin moi aussi c'est ma façon de travailler pour d'autres œuvres que je fais. Je suis un auteur assez instinctif, donc en fait je me suis laissé juste porter. J'ai pas le souvenir d'avoir fait quelque chose de super technique. Simplement en prenant cette masse de textes, il y avait des moments où je disais bon là on va couper ici, là on va rassembler des personnages, mais ça s'est fait un peu, je dirais naturellement. Il y a la première étape, ça a été de prendre le texte intégral et sur ce texte intégral élaguer. Et puis après, on a vu qu'il y avait une césure à peu près, voilà, que ça faisait 2 tomes. Au début, on savait pas combien de tomes on allait faire. Moi, je pensais qu'on allait faire en 1 tome un gros volume. En fait, bon, ça s'est révélé pas possible. Donc, on a fait 2 tomes, et ça s'est fait un peu naturellement, quoi. Alors, je dis pas que ce texte attendait d'être adapté sous cette forme, mais en tout cas, cette richesse énorme du texte fait que, de toute façon, on savait qu'il allait rester quelque chose de vraiment de valeur.
Ségolène Le Menn, c'est une tradition, c'est tout à fait dans la tradition balzacienne que de lier l'image et le texte, puisque plusieurs versions justement ont été faites d'illustrations des œuvres de Balzac.
Tout à fait.
Et ça a été très important.
Ça a été absolument très important et ça a été vraiment le premier auteur à revendiquer même l'illustration de son œuvre. Dès lors qu'il invente l'idée même de la comédie humaine, il propose une liste à son éditeur d'illustrateurs et souhaite que son édition soit illustrée. Et puis même, dès les années 1830, un de ses livres avait déjà été illustré. Et pour la comédie humaine, il y a cette interaction continuelle entre le texte et l'image qui est aussi interne au texte, parce qu'on a l'impression que le texte est nourri de petites vignettes en écriture.
C'est une écriture visuelle.
C'est une écriture tout à fait visuelle. Et il s'y ajoute les images qui sont des planches, des hors-textes. Et donc il y a à la fois cette interpénétration, mais en même temps quelque chose d'assez séparé. C'est-à-dire que les planches sont là pour planter les personnages et nous les faire voir, pour donner de la vérité en quelque sorte et de la présence au personnage balzacien et authentifier en quelque sorte la réalité de ce monde romanesque, de cette comédie qu'il est en train de créer.
Et Balzac s'intéresse particulièrement à ça parce qu'aussi il est lié au monde de l'édition, il a cette expérience aussi et à la presse satirique.
Tout à fait, il a été lui-même, il a fait une expérience d'imprimeur, d'éditeur, et c'était un grand connaisseur de tous les métiers du livre, des gens du livre, un passionné de typographie, de papier, il s'était intéressé à beaucoup d'éléments matériels du papier et de l'édition. Il a été lui-même un éditeur. Et ensuite, il a été vraiment un des grands acteurs de la caricature, c'est-à-dire le premier grand journal illustré de caricature, dont il écrivait une grande partie des articles et où il travaillait en collaboration constante avec toute une écurie de dessinateurs qui étaient parmi les plus grands dessinateurs caricaturistes de l'époque. C'était un nouveau métier, véritablement, que celui de dessinateur de presse. Et on inventait un langage graphique dont finalement les dessinateurs de bande dessinée sont, je crois bien, les héritiers. Et Balzac était passionné par tout cela. Enfin, vous venez de le dire, il avait écrit des critiques sur Granville dans les colonnes de la caricature, par exemple. Il commentait les caricatures, il mettait en texte ses images. Les images s'inspiraient peut-être des textes de Balzac ou annonçaient les vignettes de Journal L'Artiste, annonçaient aussi les romans de Balzac.
Yves Gagneux, ce que l'on voit aussi dans l'exposition de la Maison Balzac, c'est qu'il y a comme une histoire des adaptations des œuvres de Balzac.
Oui, Balzac n'a pas cessé de susciter de l'inspiration de différentes personnes. Alors, toutes premières adaptations, en réalité, sont des adaptations pirates. Puisque lorsque Balzac est du vivant de Balzac, le droit des œuvres n'existe pas. C'est-à-dire les œuvres ne sont pas protégées. La Convention avait donné, dans un grand élan de générosité, libre accès des œuvres du génie au peuple. Et ce qui était très bien pour le peuple était absolument désastreux pour les génies en question, puisque dans le cas, par exemple, du Père Goriot, eh bien, dès que le livre est sorti, ça a été un très grand succès, vous avez vu des adaptations théâtrales sur le boulevard, mais ces adaptations adaptations sont des adaptations sur lesquelles on retrouve Rastignac, Vautrin, on retrouve tous les personnages, mais on retrouve un seul manque, c'est Balzac. Balzac n'apparaît même pas sur l'affiche. Balzac ne touche pas un centime. Et puis, la représentation, évidemment, c'est pour le boulevard. Donc, on va adapter la fin du roman. Et au lieu d'avoir la fin que l'on connaît, très triste, avec la mort du père Goriot, on a une fin à l'eau de rose qui va totalement dénaturer le roman. Donc ça, Balzac, ça l'a rendu évidemment complètement fou. Et après, les adaptations se sont poursuivies et avec une liberté croissante. C'est-à-dire qu'on progressivement, dans un premier temps, les gens ont voulu suivre vraiment le romancier, suivre le récit. Et progressivement, ils se sont émancipés et ils ont utilisé véritablement Balzac comme un terreau pour exprimer leur propre personnalité, leur propre vie. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant.
C'est ces jeux d'aller-retour d'imaginaire, d'un imaginaire à l'autre. On va entendre l'une des adaptations, qui est celle du colonel Chabert par Evangelo.
Monsieur, à qui ai-je l'honneur de parler ?
Au colonel Chabert.
Je vous écoute.
Monsieur, je désirerais ne confier qu'à vous le secret de ma situation.
Vous pouvez nous laisser, Boucard.
Mais...
Non, non, reposez-vous bien.
Bien, patron. J'ai tout préparé.
Je verrai tout cela, c'est bien. Allez, Boucard, à demain. Parfait. Monsieur, je suis à vous. Simplement, au milieu de la nuit, les minutes sont précieuses. Je vous prierai d'être exact et bref. Allez au fait, sans digression. S'il est nécessaire, je vous poserai moi-même les questions utiles.
Donc, Chabert, colonel, je commandais un régiment de cavalerie à Hello, où je suis mort le 8 février 1807. J'ai été pour beaucoup dans la charge que fit Murat, qui décida du gain de la bataille. Oui, je peux même dire que c'est moi aussi qui ai sauvé l'affaire. Tout est raconté dans Victoire et conquête des Français de 1792 à 1815. Alors on annonce ma mort à l'empereur, et lui, vous verrez, page 206, mon pauvre Chabert est donc mort.
Ségolène Le Mène, c'est la voix évidemment de Gérard Depardieu et aussi celle de Fabrice Lucchini incarnant les personnages du colonel Chabert. Est-ce que cette adaptation visuelle en mouvement, qui ne risquait pas d'exister à l'époque de Balzac, est quand même dans une espèce de continuité balzacienne comme ça, de l'idée de changer de support et de toujours développer cette œuvre, d'une œuvre en mouvement?
Ah oui, je crois que c'est très fidèle à l'œuvre de Balzac,
même si c'est l'œuvre
vivante. Oui. Et c'est aussi la preuve que c'est un auteur toujours vivant, je pense. Et même si les premières adaptations ont été des adaptations pirates, elles ont eu du succès. Et je crois que c'est aussi ce qui nourrit le succès de Balzac, le fait qu'on peut reprendre, transposer, réinterpréter, s'approprier, faire revivre les personnages, leur donner voix, leur donner présence. Oui, je crois que c'est très important, certainement.
Philippe Thiroux, on voit justement que toute la question de l'adaptation, c'est aussi la fidélité au texte ou les libertés, la question de la fidélité historique, justement par rapport à ce qui a pu être décrit de la ville du 19e siècle, etc. Vous avez décidé d'être fidèle à l'histoire. Et oui. Les originalités, elles viennent d'ailleurs.
Alors, la fidélité, de toute façon, ça faisait partie du cahier des charges. Hein. C'est une collection de l'éditeur Delcourt, qui s'appelle Ex Libris, donc d'adaptation de romans de la littérature mondiale. Et c'était convenu avec le directeur de collection, Jean-David Morvan, qui est lui-même auteur, qu'il fallait rester fidèle au roman. Donc ça, c'était important.
Donc pas de happy end, pas d'histoire à l'eau de rose.
Non, mais de toute façon, ça me semblait logique dans mon travail d'adaptateur. Voilà, parce qu'il y avait, vraiment ce souci. C'est pas de faire du texte illustré. Donc ça a toujours été important. Pas de faire du texte illustré, pas faire du roman illustré, de faire une bande dessinée, mais qui respecte vraiment l'œuvre. Donc ça, c'était très très important.
Le graphisme aussi était contraint d'être un peu traditionnel, où tout
non,
était libre. Parce qu'il n'est pas très punk non plus, le graphisme.
Non,
on reste
non,
dans une iconographie classique.
Par contre, c'est très vivant, quoi. Donc c'est l'éditeur, donc Jean-David Morvan, le directeur de collection, qui a trouvé ce dessinateur, Bruno Duhamel. Moi, à la base, quand j'ai commencé l'adaptation, je pensais plutôt à un dessinateur très réaliste, assez noir. Et finalement, c'était une idée de génie de trouver ce dessinateur Bruno Duhamel, qui est un excellent dessinateur semi-réaliste, parce qu'il apporte, pas de la gaieté, mais il apporte un peu de légèreté, un peu de douceur parfois, un peu d'humour, dans ce roman qui est quand même très très noir,
avec
très
beaucoup
sombre.
De subtilité. Hein, les traits de Vautrin sont les plus marqués, donc on le distingue tout de suite,
voilà,
le noir de la veste, les reliefs.
Alors après, pour tout ce qui est justement réalité historique des costumes, etc. Donc ça, on est complètement raccord. Hein, et donc les petites libertés qu'on a prises, c'est plus ce qu'on a fait pour, par exemple, les dialogues, on les a quand même un petit poil modernisés. C'est-à-dire toutes les inversions de mots dans les phrases,
ouais, la etc. phrase à laquelle je faisais allusion.
Voilà. Il y avait clairement dans cette collection un but pédagogique aussi. Ça, c'était
donner envie de lire le Père Goriot, donner
fois
un
que
accès.
Ça soit, qu'il y ait un but, enfin une notion pédagogique, c'était en direction des scolaires, c'est-à-dire donner envie à des jeunes de lire Balzac, mais aussi donner envie à des moins jeunes de relire Balzac parce qu'ils avaient été peut-être traumatisés dans leur jeunesse par des lectures imposées. Et puis il y avait aussi donc une exigence artistique. Et Jean-David Morvan a fait appel uniquement à des auteurs dont il appréciait le travail. Donc ça, c'était quand même assez intéressant, parce que généralement, quand on lance comme ça une grosse collection, bon, on a besoin de personnes, on a besoin d'auteurs, on pioche un peu à droite, à gauche, et puis on peut se retrouver à plus avec des gens un peu mercenaires. Là, c'était pas du tout le cas. Et ce qui a été super intéressant, c'est qu'en fait, les auteurs ont apporté leurs romans. C'est ça qui a été génial.
C'est vous qui racontez l'histoire. Et de temps en temps, Balzac revient comme ça, avec quelques citations dans des encadrés, dans une couleur un peu de parchemin. Hop, une vraie phrase arrive de Balzac.
Oui, alors bon, les dialogues sont quand même à 90% de Balzac, on va dire. Hein. On a, voilà. Et par contre, oui, ce qu'on voulait donc pas faire du texte du roman illustré, donc il y a très peu de text-off, il y a très peu de récitatifs, sauf vraiment sur la dernière page, où là, on reprend les formulations de Balzac pour dire que Eugène a fait le choix de... Voilà, il a fait un choix, il va dîner chez Delphine.
Mais la mise en graphisme permet aussi de donner une autre porte d'ouverture, puisqu'on rentre dans cette codification du dessin qui est assez subtile, et le rouge sépia nous amène dans les pensées du personnage, le blanc qui arrive d'un coup d'un personnage, hop, Rastignac commence à entrer dans le monde, et on comprend toutes ces transitions par des codes.
Oui, mais ça, c'est vraiment le travail de Bruno.
De la bande dessinée.
Voilà, c'est son talent, c'est sa capacité à raconter une histoire. Et il faut savoir que, bon, il n'a pas été du tout un simple exécutant illustrateur de notre scénario. Il connaissait parfaitement le roman, peut-être mieux que nous. En dessinant, il écoutait le roman en version audio. Donc, il a été plongé là-dedans. Et après la sortie des albums, il a été les faire vivre dans des expositions, dans des conférences, etc. Donc, ça a été vraiment un travail à trois. On était, comme je vous ai expliqué, c'était vraiment, on avait envie de faire cette adaptation, quoi. C'était pas un travail de commande.
Yves Gagneux, est-ce qu'il y a cette nécessité, y compris à la Maison Balzac, de faire ce travail pédagogique pour un auteur qui a écrit des romans classiques, pas toujours si faciles à lire?
Alors, notre rôle n'était évidemment pas de nous substituer à l'éducation nationale. Il y a tous les petits Français ont des professeurs qui peuvent leur faire une présentation littéraire de l'œuvre extrêmement précise. Notre rôle est plutôt d'ouvrir des portes là où on ne les attend pas. Et ces portes, nous allons les ouvrir en présentant des œuvres pour expliquer justement certains aspects de Balzac qui ne sont peut-être pas dans les manuels de littérature. Pour nous, cet écrivain est vraiment un écrivain universel. C'est-à-dire que nous ne retenons pas chez Balzac l'écrivain du 19e siècle, l'écrivain parisien du 19e siècle. Nous retenons celui qui a parlé de l'homme, et qui a vraiment présenté sa place dans la société. La comédie humaine, il faut quand même insister dessus, ça n'est pas simplement les œuvres complètes de Monsieur de Balzac, mais c'est d'abord et avant tout un projet de classification des espèces sociales. C'est-à-dire que Balzac s'est inspiré de Buffon, s'est inspiré de Cuvier, davantage finalement que de Corneille ou Walter Scott. Et ce qu'il a voulu faire, c'est vraiment une classification avec plusieurs niveaux, et après présenter des espèces sociales. C'est une œuvre qui est inachevée, d'une part parce que Balzac n'a pas écrit tout ce qu'il voulait, mais aussi parce que certaines espèces sociales, qui existent du temps de Balzac aujourd'hui ont disparu, et puis d'autres espèces sociales sont apparues dont Balzac n'a pas pu parler. Balzac n'a pas pu parler des bobos, par exemple. Il aurait fait un très beau roman des bobos, certainement. Et ce qui nous intéresse dans cette œuvre, c'est justement la manière dont Balzac va analyser véritablement les rapports des gens et ensuite les retranscrire. Et ce que montre notre exposition, c'est que de plus en plus, les artistes ont été sensibles justement à cette capacité d'analyse de Balzac, et plutôt que de regarder ceux qui l'analysent, ils ont regardé la façon dont il le fait. Et cette façon, elle n'a pas pris un quart de ride.
Dans l'œuvre de Balzac, et vous, ce que vous avez décidé de mettre en avant dans cette exposition autour des artistes, Yves Gagneux, c'est aussi la question de la figure de l'écrivain, sa gloire, sa postérité, qui sont des questions qui ont obsédé Balzac de son vivant, qui a quand même couru aussi après l'argent.
Oui, Balzac court après l'argent, Balzac court après la gloire. Il s'est présenté à l'Académie française en vain. Il a essayé par tous les moyens de récupérer de l'argent. Il a inventé le roman feuilleton, il a écrit aux députés pour obtenir que ses droits lui soient véritablement restitués. Bon, à peu près en vain. Il a gagné beaucoup d'argent pour un écrivain de l'époque. Il arrive à en vivre tout de même, ce n'est pas si mal. Après, il a un tel train de vie qu'effectivement, il a eu des dettes pendant toute sa vie, mais ça, c'est autre chose. Mais Balzac s'est beaucoup préoccupé de son image. Et l'image de Balzac, au début, n'est pas très bonne, puisque ce qu'on va retenir, c'est celle d'un romancier à une époque où le roman n'est pas un art. Le roman, c'est quelque chose de tout à fait secondaire. Les artistes, ce sont les peintres, ce sont les compositeurs, ce sont les sculpteurs, mais certainement pas les écrivains qui sont des primitifs.
Surtout ceux de la prose.
Surtout ceux de la prose. Un poète est un artiste, un dramaturge est un artiste, Victor Hugo est un artiste, mais Balzac pas du tout. Et donc ça, évidemment, il va en souffrir, il va proposer lui-même une définition de l'artiste qui casse un peu les cadres de son époque et dans lesquels, évidemment, il puisse à nouveau s'insérer. Et c'est cette réflexion sur la création artistique qui nourrit toute son œuvre. Il y a un roman sur trois met en scène des artistes avec, en général, d'ailleurs, des artistes qui échouent. Balzac envisageait toutes les modalités de l'échec artistique. Eh bien, cette réflexion, évidemment, ne laisse pas insensibles les artistes aujourd'hui. Donc, l'image de Balzac a évolué. Dans un premier temps, les contemporains vont retenir le romancier prétentieux qui espère arriver à l'Académie française, qui veut gagner de l'argent, etc.
Un peu arriviste.
Exactement. Et on a donc toutes ces gravures qui sont souvent très drôles, où on voit des cortèges de romanciers qui essaient d'arriver à l'Académie française ou qui essaient de rentrer dans le fromage académique.
Il y a le grand chemin de la postérité.
Oui, on a un grand chemin de la postérité sur lequel on voit en tête Victor Hugo qui chevauche le Pégase romantique avec d'ailleurs en groupe
Théophile
un certain
Gautier.
Nombre de personnes. Théophile Gautier juste derrière. Théophile Gautier est celui qui a écrit l'histoire du romantisme et qui a vraiment créé la bataille d'Hernani, si on peut dire. Et puis vous voyez Alexandre Dumas qui est en train de porter des impressions, de réimpressions de voyages parce qu'il n'a cessé d'écrire ce genre de roman.
Lamartine sur son nuage.
Et Balzac, gros et gras, tout replet, un sourire réjoui sur les lèvres, qui est là par derrière. Dans une autre gravure, cette fois-ci, Balzac est en balançoire sur les nattes de deux femmes qui ont eu 30 ans il y a 10 ans. Et autour de lui, à ses pieds, vous avez toute une série de petits cœurs avec la clé. C'est le cœur des femmes dont il a su trouver la clé. Et derrière, vous avez Gérard de Nerval qui porte son énorme canne, puisque cette canne de Balzac est un instrument qui a beaucoup marqué les caricaturistes de l'époque.
La canne avec ses turquoises.
La canne à ébullition de turquoise.
Ségolène Le Menn, est-ce qu'on peut dire que Balzac a lui-même orchestré sa postérité, a donné des images qui permettaient aux artistes de le représenter, d'avoir envie de le représenter?
Je ne sais pas s'il a vraiment orchestré sa postérité, en tout cas c'est... Parce qu'à mon avis, celui qui l'a le plus orchestré, c'est Victor Hugo. Mais en tout cas, il a joué avec les images continuellement. Il connaissait très bien les caricaturistes qui eux-mêmes le connaissaient bien, ce qui fait qu'il y a eu des caricatures de lui qui étaient drôles. Mais en même temps, c'était pas des caricatures méchantes, c'était des caricatures empathiques.
Mais il leur a donné du grain à moudre, la robe de bure, la canne.
Oui, et la robe de bure, Balzac en froc de moine, etc. Ça s'est poursuivi jusqu'à... Rodin a fait quand même ce magnifique monument de Balzac où il apparaît dans sa robe de moine, mais c'est un monument qui a été refusé par la Société des gens de lettres, un monument qui lui-même a fait scandale.
Et qui a atterri à Montparnasse, il a inspiré encore tous les artistes du siècle suivant.
Voilà, donc il y a une fortune iconographique absolument extraordinaire, en effet, de Balzac, et il s'est très volontiers laissé représenter. Je pense par la peinture, la photographie, la sculpture, la caricature, tous les médias de son temps, toutes les formes imagées.
Quand on parle de Balzac, on a aussi cette image presque un peu démurge du bourreau de travail, Yves Gagneux, le bourreau de travail qui travaillait le jour, la nuit, 18 heures par jour, qui en est même mort.
Oui, cette image, elle est réelle, cette image est réelle, elle est fondée, elle est malgré tout excessive. Et nous nous en sommes rendus compte nous-mêmes lorsque nous avons complètement rénové le musée. L'année dernière, nous avons refait le cabinet de travail et en refaisant le cabinet de travail, nous avons refait les textes. Et là, nous nous sommes dit, mais tout de même, nous exagérons. En présentant cet écrivain qui ne cesse de travailler tout seul dans son coin, on fait une sorte d'héroïsation du travail. Certes, ça n'est pas complètement faux, mais ça n'est pas complètement juste. Et donc, il faut rétablir les choses. D'où l'idée de cette exposition qui nous permettait, cette fois-ci, de contrebalancer en disant, certes, l'écrivain, dans son cabinet de travail, a conçu, travaillé la nuit, et ce monde extraordinairement précis qu'on trouve dans ses livres, c'est vraiment un monde imaginaire. C'est ce monde qu'il a tout seul. Il n'y a guère pratiquement que le chant de quelques oiseaux de nuit ou très tôt le matin, les merles à 6 heures commencent à chanter. mais il est absolument seul. Et puis, il a le reste du temps. Le reste du temps, quand il va dans l'opéra, quand il va dans les salons, quand il va même parfois s'accrocher littéralement à des musiciens et autres pour leur poser des questions, pour les pressurer, et après il va récupérer tout ceci, tout ce matériau, et en faire un roman, il va construire véritablement les choses.
Donc l'image de l'écrivain boulimique, de l'écrivain qui serait une sorte de surhomme, qui n'a pas besoin de dormir, qui écrit sans cesse.
L'image est juste, mais elle est insuffisante.
Elle est insuffisante.
Elle est insuffisante. Il faut la rétablir. Donc, effectivement, Balzac est un bourreau de travail. Balzac fait les 35 heures en deux jours. Ça, de ce point de vue-là, c'est très clair.
C'est déjà une sorte de performance en deux
c'est
jours.
C'est une performance. Mais cette performance n'explique pas l'œuvre. L'œuvre, elle s'explique aussi par ses contacts, par ses relations, par cette formidable capacité à observer, à analyser. Balzac est vraiment un entomologiste pratiquement qui va considérer la société française comme il reconsidérait une société d'insectes. Et après, il va restituer ça avec une finesse, une drôlerie sans équivalent en littérature.
On va entendre Sacha Guitry parler de Balzac.
Je sonnais, on ne vint pas. Je sonnais une seconde fois, la porte s'ouvrit. Une servante m'apparut avec une chandelle à la main. Elle pleurait. Une autre femme vint qui pleurait aussi et qui me dit « Il se meurt. Madame est rentrée chez elle. Les médecins l'ont abandonnée depuis hier. Ils ont dit « Il est perdu. » Ils ne sont plus revenus. Depuis 11 heures, il râle et ne voit plus rien. Il ne passera pas la nuit. Je demandai alors à voir Monsieur de Balzac. Le lit était au milieu de la chambre. Monsieur de Balzac était dans ce lit. Il avait la face violette, presque noire, inclinée à droite, la barbe non faite, l'œil ouvert et fixe. Je le voyais de profil et il ressemblait ainsi à l'empereur. Une odeur insupportable s'exhalait du lit. Je soulevai la couverture et pris la main de Balzac. Elle était couverte de sueur. Je la pressai. Il ne répondit pas à la pression. Il mourut dans la nuit. Il avait 51 ans.
Alors c'est Sacha Guitry qui lit Victor Hugo, qui raconte sa rencontre avec Balzac. On entend là tout ce mythe autour justement de l'épuisement. Ça a joué aussi dans les collaborations avec d'autres artistes, puisque finalement il les a usés, les artistes avec qui il a essayé d'écrire.
Oui, on a un certain nombre de récits d'ailleurs extrêmement drôles, notamment de Théophile Gautier, qui raconte comment un jour il est convié chez Balzac, il arrive un peu en retard et Balzac lui dit « Bon écoute, voilà, nous sommes quatre ici, j'ai besoin de... Voilà, demain je vais lire une pièce de théâtre. » Alors Théophile Gautier dit « Ah bon, très bien, il s'assied en attendant qu'on lui lise la pièce, comme c'est l'usage à l'époque. » Et puis, eh bien non, pas du tout, lui dit Balzac « Ah non, c'est pas ça, la pièce n'est pas écrite. » Ah, fait Théophile Gautier, mais alors il faut reporter la lecture à plusieurs semaines. Non, j'ai absolument besoin d'argent, on va écrire la pièce, mais ce n'est pas très compliqué d'écrire une pièce. Nous sommes cinq ici, chacun va écrire un acte, et comme ça, demain, je prends l'ensemble et je vais faire la lecture. Ah, fait Théophile Gautier un peu surpris, bon bah très bien, bah alors parlez-nous un peu de l'action, des personnages, etc. Et là-dessus, Balzac lui jette un regard désolé en disant, mais attendez, s'il faut tout vous expliquer, on n'y arrivera jamais. Voilà, c'est une présentation un peu comique, mais Balzac effectivement a essayé de travailler plusieurs fois, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Il a également voulu avoir des secrétaires qui travaillaient pour lui, des nègres en littérature. Balzac le faisait, Alexandre Dumas le faisait abondamment, mais en général, les gens se sont tous sauvés au bout d'une semaine. Ils n'en pouvaient plus, Balzac allait les retirer du lit à 3h du matin, reprenait tout, de toute façon, n'était jamais content, donc c'était absolument désespérant. Il y en a un qui a tenu un peu plus longtemps, et puis qui a fini par jeter l'éponge, et après Balzac a compris que c'était inutile, et qu'il était le seul à pouvoir construire son œuvre.
Et à tenir son propre emploi du temps. Ségolène Le Menn, justement, à travers l'idée de la puissance créatrice, et de la capacité à produire, comme ça, de l'œuvre, il y a aussi une idée un peu du mythe, qui traverse l'œuvre balzacienne, le mythe à travers des personnages qui traversent les romans, qu'on retrouve dans plusieurs romans de la comédie humaine, et aussi l'idée selon laquelle lui-même aurait comme ça la capacité de produire une œuvre gigantesque, serait le père d'une famille très nombreuse.
Oui, absolument, et c'est... Cette fabrique de personnages, on la retrouve à travers un procédé qu'il a vraiment inventé, qui est celui, vous l'avez évoqué d'ailleurs, du personnage reparaissant. Et c'est justement l'idée une idée qui sera très importante aussi pour d'autres formes d'expression comme la bande dessinée, d'avoir ces personnages qui reviennent d'un livre à l'autre ou d'une série à l'autre. C'est peut-être une idée aussi qu'il a dont il a trouvé l'inspiration dans les recueils de lithographie de son époque, où par exemple Robert Macaire de Daumier, c'était un personnage comme ça qui revenait de planche en planche avec chaque fois un rôle différent. Et donc Balzac s'est approprié un petit peu toutes ces façons de faire pour élaborer, comme vous le dites, une sorte de mythe et le transmettre. Et cette idée du monde de personnages autour de l'artiste est effectivement une idée très forte et très importante que l'on retrouve évoquée par certains des illustrateurs, que ce soit dans La Comédie humaine, mais aussi dans un livre qui s'appelle Les Français peints par eux-mêmes, où on voit justement le personnage de l'éditeur, mais aussi le personnage de l'auteur entouré de ses personnages, et certainement avec des clins d'œil à Balzac, qui était un peu la figure de tout cela.
On va entendre Simenon qui parle de l'écriture prolifique et qui en parle comme d'une malédiction.
Si je ne me sens pas d'affinité avec Balzac, ce n'est pas que je ne l'admire pas, au contraire. Mais en somme, entre nous, il n'y a qu'un point commun, c'est celui du nombre d'œuvres écrites. Balzac est un géant. Je l'ai lu deux ou trois fois et je crois que le roman, ce n'est pas un amusement, ce n'est pas une fleur à la boutonnière, mais c'est vraiment un renoncement et quelquefois, comme dans son cas, une malédiction.
Yves Gagneux, la biographie de Balzac nous dit ça aussi. Écrire parfois c'est une malédiction, il lui en a coûté un peu sa santé, peut-être une partie de son bonheur, et la santé et le bonheur et l'obsession d'autres artistes derrière lui. On a dans cette exposition cette obsession balzacienne qui revient chez certains artistes, notamment Martine qui dessine à l'infini des Balzac.
Oui, Martine est un cas extrêmement singulier. C'est une artiste très particulière qui souvent travaillait par série. Bon, rien que de très ordinaire. Et puis, un jour, il y a un peu plus de 5 ans, quelqu'un lui a proposé de faire un buste de Balzac. Elle a refusé énergiquement dans un premier temps. Et puis l'idée, finalement, lui a paru sympathique. Elle a créé ce buste. Et ça a été pour elle le début de ses ennuis, puisque à partir de ce jour-là, elle n'a plus su faire que des Balzacs. Donc elle se met devant une feuille de papier, c'est un Balzac qui sort. Elle se met devant une peinture, hop, voilà Balzac, etc. Je crois qu'elle en est actuellement à plus de 700 personnages. Et elle n'arrive pas à faire autre chose, donc elle est très très inquiète. Elle se demande si ça n'est pas
une malédiction,
de quoi elle est habitée par Balzac. Elle est hantée par Balzac, envahie par Balzac. Et elle va réussir à faire comme cela des Balzacs qui sont tous différents les uns des autres et qui vont témoigner véritablement quelque part du Balzac en elle, et puis des questions qu'elle se pose probablement sur la création artistique. Martine connaissait évidemment Rodin, elle connaissait parfaitement Balzac, et tout ceci, ça va sortir sous une forme de questionnement. Et d'une certaine manière, Martine est l'un des exemples peut-être les plus étonnants de cette utilisation du personnage de Balzac par les artistes dans la deuxième moitié du XXe siècle. À partir de Picasso, les artistes qui vont représenter Balzac vont en réalité s'interroger eux-mêmes. Balzac devient une sorte de miroir dans lequel les gens vont à la fois poser des questions et essayer de trouver des réponses. Et donc on a des Balzac par Enrico Bay que nous présentons au musée, un Balzac par Arroyo qui est absolument extraordinaire aussi. Le Balzac d'Arroyo, c'est pareil. Arroyo arrive à Paris, il vient d'Espagne, il quitte l'Espagne franquiste, il va s'installer dans le quartier le plus pauvre de Paris, c'est-à-dire Montparnasse, et évidemment il va voir le Balzac de Rodin, et puis il va aussi... Qui a échoué là, parce qu'on l'a mis ici, parce que c'était un quartier pas trop bien fréquenté,
parce
donc on pouvait se débarrasser de la sculpture, on n'en voulait pas. Et puis il va aussi rencontrer Picasso dans son atelier, Picasso qui en 1950 va commencer à faire des portraits de Balzac, dans lequel c'est une interrogation de Picasso sur son propre travail, et sur le Balzac de Rodin, et sur Balzac tout court. Et Arroyo va également rencontrer l'écrivain, va travailler avec d'autres artistes et ils vont faire ensemble une suite, une passion dans le désert qui va lancer véritablement Arroyo. Et donc toutes ces formes de Balzac, 50 ans après, Arroyo va en faire un portrait qui est une forme de constellation, de mosaïque avec des photographies découpées. Et il va vraiment...
Et la chevelure qui cerne comme un cadre... Justement.
Oui. Donc on voit bien qu'il s'agit de Balzac, et en fait il s'agit des impressions d'Arroyo. Donc Arroyo va retrouver dans Balzac sa vie, son œuvre, ses questions, toute son importance. Balzac va le nourrir.
Voilà les obsessions qui vous guettent. Attention Philippe Thiraud, vous avez mis les doigts dans l'engrenage. Merci à tous les trois. Je rappelle que l'exposition Balzac et les artistes est à voir à la Maison de Balzac à Paris jusqu'au 2 octobre, et que la bande dessinée Le Père Goriot, co-réalisée par Philippe Thiraud, Thierry Lamy et Bruno Duhamel, est publiée chez Delcourt.
France Culture, la grande table d'été, Maëlys Bessy.
Et c'est l'heure du live d'Oruni qui nous interprète No Features.
At first I heard it and it was like I knew. The wines that make you passionate, the intimate things about you. I wonder if it is a real choice. I like to listen to your voice. But then I got so curious, I looked for your picture. Your face really was peculiar, since your hair is darker and signs of wrinkles likely betrayed. Wasn't you who were portrayed? You wrote and sang songs the way I love. Compared to his contenders then, for me he was a cut above. He only needed to create a sound to have you believe he was around. Then I saw an imitation of what he could look like. An image is a limitation of work done with a mic. There are no features that can embrace such subtlety and grace. She blew it so hard. She could have made it. She had a trump card over the phone under her spell. Everything went so well. She thought she would be able to guess who he was and how he looked. When they came, she was fearless. You saw her read the message he had sent. He fled and never called her again.
C'était Oruni. Ils seront en concert à la plage de Gladsart à Paris le 31 août et leur dernier album intitulé Grand Tour est déjà disponible. Il ne veut pour lui que les villes, Minsk et Vilna, et la ville des villes où la peinture s'est immiscée dans le moindre recoin, dans le moindre espace vide sur les boulevards et dans les ruelles. L'écrivain Ralph Dutli fait revivre le dernier voyage du peintre Soutine, des images et des paroles de toute une vie qui défilent sous sa plume aux couleurs du plus malheureux des peintres. Ralph Dutli, bonjour.
Bonjour.
Alors, quelle est cette idée que de partir d'un dernier voyage d'une seule journée de 24 heures d'un peintre, peut-être de l'un de vos peintres préférés ?
C'est tout à fait le cas, oui.
Le contraire eût été étonnant, ouais. Et d'en faire un prétexte pour raconter toute une vie.
Oui, j'aime bien le mot de prétexte, parce que la biographie de ce peintre n'est qu'un prétexte pour faire autre chose, pour faire une allégorie de la vie humaine. C'est un voyage vers la mort, donc Soutine souffre d'un ulcère gastrique, il doit être opéré à Paris, la France est occupée, tout ça se passe le 6 août 1943.
Soutine est juif.
Oui.
Il se cache.
Il se cache, pas loin de Chinon, mais il souffre depuis des années de cet ulcère, il doit être opéré, il doit être transféré à Paris. Ce voyage a eu lieu. Nous ne savons pas par où est passé ce fourgon mortuaire où il est caché. Ça aussi, ce n'est qu'une rumeur. Il y a des
contemporains. On ne le sait pas et pour cause. Pas. Et pour cause, puisque sa compagne s'est suicidée et morte après, puisqu'il n'y a pas forcément de témoignages des personnes qui étaient là, qui auraient pu en parler, parce que c'était la guerre, qu'il fallait se cacher.
Oui, il y a des contemporains qui disent que c'était une simple ambulance qui faisait ce voyage, mais j'ai besoin de cette métaphore, en quelque sorte, j'ai besoin du fourgon mortuaire, de ce corbillard. Chaim, le prénom de ce peintre, signifie en hébreu vie, la vie. Donc la vie est transportée en fourgon mortuaire vers la dernière opération, qui est bien sûr la mort, il va mourir à la fin. Mais pendant ce trajet qui a duré 24 heures, c'est un voyage beaucoup trop long pour un mourant, pour un homme malade, dont la paroi gastrique est perforée par cet ulcère. Et pendant ce voyage, il reçoit plusieurs doses de morphine. C'est très important pour le récit parce que c'est l'entrée...
dans un autre monde, ça ouvre d'autres fenêtres de l'imaginaire, le jus de pavot et la morphine.
Voilà, exactement, ça joue un rôle capital dans ce roman. C'est l'entrée de la fiction, de la fantasmagorie, du côté fantastique de ce roman. Donc, dans son imaginaire, il voyage vers un paradis blanc, où il n'y a pas de couleur. Tout est blanc. Il arrive aussi dans une clinique qui est moitié clinique, moitié prison, où il rencontre un docteur, le docteur Bog. Et il faut peut-être expliquer aux auditeurs français...
Vous ouvrez presque autant de fenêtres en parlant que vous en ouvrez dans votre roman. Ça se passe dans plein de strates, justement, puisqu'on reconnaît l'histoire de la biographie de Soutine. Cette biographie auquel il manque tellement d'éléments qu'il faut que vous apportiez de la fiction et que la peinture s'immisce dans tous les espaces vides et que votre plume vienne couvrir tous les éléments manquants, Ralph Dutilly.
Oui, c'est tout à fait exact. Donc, nous ne savons que très peu de cette vie de peintre, et là où on sait peu, il faut inventer beaucoup. Et mais c'est ça le projet littéraire, c'est ça la fiction donc de cette approche de ce roman. C'est donc il rencontre le docteur Bog. Bog veut dire Dieu en russe. Et c'est une version morphinique de Dieu, ou c'est une parodie de Dieu qui engage la conversation avec ce peintre, qui le déclare guéri, mais lui interdit de peindre, d'appliquer la couleur. Il ne veut pas de couleur dans ce paradis blanc.
Et il le guérit, et Soutine ne sait pas lui-même si l'absence de cette douleur, la disparition de cette douleur, ne lui a pas enlevé son talent.
Oui,
il y a cette question qui arrive en même temps. On voit là que vous abordez la question du génie à travers le prisme éventuel de la douleur et de la folie, ces deux thèmes étant évoqués peut-être un peu en même temps.
Oui,
et on voit là tout votre amour pour la littérature russe, Ralph Dutilly.
Oui, bien
sûr. Les accès de Soutine rappellent ceux des personnages de Dostoïevski et autres.
Oui, il y a beaucoup. C'est un ouvrage littéraire, donc ce n'est pas une biographie de peintre. Ça c'est un malentendu. Ce n'est pas une biographie, c'est un roman, oui. Et il y a beaucoup d'échos, de citations de la poésie française. Il y a L'autre et amant, il y a Baudelaire, il y a Rimbaud, il y a mes poètes russes préférés que je traduis en allemand. Donc, étant suisse de langue maternelle allemande, j'ai traduit Ossip Mandelstam, Marina Tsvetaeva, Joseph Brodsky en allemand. Donc il y a des citations de mes peintres, pardon, excusez-moi, maintenant je dis peintre.
Poète. Mais en fait, on a compris que tout ça, c'était la même chose.
C'est pas tout à fait la même chose. Ce roman est un hommage à la peinture, aux beaux-arts, aux couleurs, aux formes. Un hommage de la part d'un homme de la parole. Je suis poète et je m'incline devant la puissance de ces tableaux, de la peinture de Soutine.
Ce qui est un peu la même chose, c'est que dans votre roman, vous voulez essayer de convoquer tous les sens et vous voulez faire du visuel, du charnel. Vous décrivez tous ces animaux morts que peint Soutine. Mmh. Et ce côté un peu répugnant, vous avez envie de le faire revivre aussi.
Il y a le côté répugnant de la vie aussi, mais il y a quelque chose de jubilatoire dans ces tableaux. Et on a souvent dit que c'est un peintre brutal, cruel, avec ses animaux suspendus, écorchés. Mais je trouve une très grande tendresse dans ces tableaux. Par exemple aussi dans les portraits de charges subalternes de la vie, de domestiques, de grooms, d'apprentis pâtissiers, les petites charges de la vie, mais qui sont ce sont des personnages qui sont peints comme des pharaons, comme des dignitaires. Ils ont une dignité, on voit leur fragilité, et en même temps, il y a une grande dignité, et c'est ça qui me touche dans ces portraits. Et ça aussi, je voulais introduire, bien sûr que ce n'est pas... je ne suis pas historien de l'art, j'ai une approche intuitive de cette peinture, qui joue un grand rôle, mais je ne décris pas des tableaux, j'essaie de...
C'est plutôt l'émotion de ceux qui les voient que vous avez envie de transmettre. On a cette découverte du pâtissier par le marchand d'art Brandt.
Barnes, oui, découvre Soutine en 1923, et c'est la découverte de ce peintre, parce qu'il achète une cinquantaine de tableaux. La rumeur veut qu'il en ait acheté 100.
Comme des bonbons. Il achète des Soutines comme il achèterait des bonbons.
C'était très bon marché. Il les a achetés pour 20 dollars, 30 dollars, et aujourd'hui, le petit pâtissier vaut 18 millions de dollars.
Mais ce que vous racontez, c'est son émotion et sa surprise devant les tableaux.
Oui, oui, c'est exact. Donc, cet épisode, bien sûr, cet épisode a été inventé, mais le fait a eu lieu. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses réelles, historiques, dans ce roman, auxquelles je donne après un caractère fantastique ou fantasmagorique. Donc, l'entrée du docteur Bog, de Dieu, dans cette chambre blanche, lui rappelle, dans son délire morphinique, l'entrée du docteur Barnes dans sa vie et sa découverte de l'Amérique, comme j'écris, parce que beaucoup de ses tableaux se trouvent aujourd'hui aux États-Unis, à Philadelphie, dans la Fondation Barnes Foundation.
Alors, si on essaye de suivre ce projet littéraire, le projet littéraire était de combler les manques du récit, de faire de la fiction à partir du peintre qu'on aime, mais aussi, à travers cette histoire, c'est l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et avant, c'est l'histoire des Juifs de l'Est qui fuient les pogroms et qui trouvent la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, mais c'est assez tragique parce qu'ils se sont enfuis au début du siècle. En effet, c'est tous ces pays de l'Est, enfin la Biélorussie, la Russie, il y a eu ces terribles pogroms.
Soutine, il vient du Shtetl, il faut raconter.
Oui, près de Minsk, c'est un petit Shtetl. Du nom de Smilovici, près de Minsk. Après, il va à Vilna, Vilnius, en Lituanie. Mais bien sûr, tous ces peintres rêvent de Paris. C'était la capitale mondiale de la peinture. Tout le monde veut aller à Paris. Il y avait cette fièvre, cette fascination de cette ville. Et c'était la grande époque de la peinture, les années 10, les années 20. C'était une effervescence, c'était un monde en ébullition. C'était une fièvre créatrice à l'époque, que j'essaye de suggérer aussi dans ces rappels, dans ce cauchemar, dans ce délire. Il y a des rappels de la vie d'artiste à l'époque.
La vie d'artiste, et avant d'être un artiste, il y a le Shtetl qui revient aussi par bribes à travers cette enfance de misère, cette enfance malheureuse, dans laquelle en plus il est interdit de dessiner parce qu'il représente des figures.
Oui, ça c'est un tabou religieux et qu'il transgresse, il enfreint un interdit. Donc, si le docteur Bog lui interdit de peindre et de représenter, c'est un rappel de l'interdit de son enfance. Il ne faut pas représenter des animaux ni des êtres humains. C'est interdit. Et il ne peut pas faire autrement. Il est obligé de peindre. C'est un peintre qui ne peut pas être autre chose qu'un peintre. Il est obligé
de
créer.
Côté viscéral que vous décrivez à travers l'enfant qui finalement dessine dans le sable, dans le sol sableux, et qui va même jusqu'à se faire cogner par ses frères aînés ou se faire ceinturer par le boucher, menacé.
Oui, donc il y a la punition de ce talent, mais en même temps, mon roman, ce n'est pas une histoire d'une libération d'un talent, c'est parce qu'il emporte avec lui la honte d'avoir transgressé, d'avoir enfreint cette interdiction. Et par exemple, il y a la figure de Modigliani qui apparaît ici. Cette amitié n'est pas inventée, donc c'est un fait historique. Les deux étaient
très très proches,
inséparables. Très proches, mais complètement différent. Modigliani était un peintre qui avait une main facile, qui dessinait, qui peignait avec une facilité énorme. C'était aussi un être éhonté, il ne connaissait pas la honte.
Et c'est Soutine, presque des miroirs inversés, hein.
Oui, c'est ça. Ils sont très complémentaires, très très contradictoires. Ce sont des contraires, mais ils s'estiment, mais ils sont très très différents comme peintres. Et pour Soutine, la création a été un acte intime et où la honte jouait un très grand rôle.
D'ailleurs, il détruit beaucoup de ses tableaux dont il a honte.
Oui, mais
dont il n'est pas content.
Dont il n'est pas content. Donc c'est un jugement artistique, mais je pense aussi, c'est une spéculation, c'est aussi ce tabou religieux qui lui ordonne de détruire ce qu'il a créé, parce que ce n'est pas cette création-là et la mauvaise création. Il n'y a que Dieu qui a créé le monde et cette création singe la création de Dieu, donc elle est interdite.
Et de même qu'il a amené avec lui justement tous ces interdits religieux dont il n'arrive à se défaire, il y a aussi la faim qu'il a subie, le corps qui a été sans cesse privé, qui a créé cet ulcère. Et quand il arrive à Paris, il ne se débarrasse pas tout de suite de la misère.
Un jour, j'ai entré chez Soutine vers 11h, ou minuit, dans son atelier. C'était ici, à Cité Falguière. À l'époque, il a jeté tous les meubles de la maison parce qu'ils ont été empestés par des punaises. Et j'ai entré là-bas, je vois un tableau comme ça. Tous les deux par terre, couchés, ils n'avaient pas ni électricité, ni gaz. Et tous les deux avec une bougie dans les mains, Modigliani, il était en train de lire Dante, il Soutine la lit les petits parisiens. Tous les deux par terre, avec des tranchées de l'eau, j'ai mis des tranchées de l'eau tout autour pour que les punaises ne passent pas. Mais les punaises étaient malins, souvent ils ont monté sur le plafond, ils ont se laissé glisser direct comme des parachutistes.
Sur eux. Oui, on raconte même, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est vrai, mais on raconte que Soutine avait même eu une punaise qui lui était entrée.
Ah oui, c'était tout un drame.
Ralph Dutilly, on entend ces petites scénettes, on imagine ces punaises sur le parquet. C'est une vie difficile qui attend ces peintres venus de l'Est quand ils arrivent à Paris. C'est pas du tout l'idylle qu'ils imaginent.
Non, c'est la misère noire, c'est la famine, c'est atroce. Mais Soutine est un chanceux quand même. Au bout de 10 ans de faim et de misère, il a été découvert par ce docteur Barnes, pharmacien de Philadelphie, et qui a créé le mythe de Soutine, parce qu'il a acheté ses tableaux, et il y a eu beaucoup de génies méconnus à Montparnasse, alors que Soutine a connu la reconnaissance, la gloire même. Donc c'est une vie... je ne voulais pas faire un récit de misère, je ne voulais pas faire un roman sinistre. Avec ce voyage vers la mort, il y a aussi des moments de bonheur et de joie, et il y a un côté jubilatoire aussi dans les tableaux de Soutine qui m'a toujours frappé. Ce n'est pas que déprimant, noir, sinistre, c'est jubilatoire pour moi.
Et la maigreur, la fin du shtetl qu'il a connu, elle revient aussi dans les tableaux. C'est la maigreur, ouais. La faim, le manque.
Oui, certainement. Mais il voulait oublier son enfance. Il a refoulé le shtetl. Il était fâché avec Chagall parce que Chagall a transporté le shtetl à Paris. Il l'a reproduit, il l'a peint. Et Soutine était furieux. Il voulait oublier tout ça. Il voulait tirer un trait. Il ne voulait plus rien avoir avec son enfance, son lieu d'origine. Il voulait oublier tout cela.
Ce que vous expliquez à travers le personnage, est-ce que l'on comprend justement de romanesque dans cette histoire, parce que son histoire à lui est déjà romanesque, ne serait-ce que dans sa biographie, c'est la question de l'invisibilité. Il y a comme ce fil invisible qui se tisse dans son histoire. Il faut qu'il soit invisible parce qu'il est juif, il faut qu'il soit invisible parce qu'il est le 10e d'une fratrie de 11, et on peut filer la métaphore à l'infini.
Oui, il y a un chapitre qui est intitulé « Le peintre invisible ». Il paraît, donc ça je suis par des contemporains aussi, qu'il croyait qu'il était invisible sous son chapeau bleu.
Barclay, donc
c'est une pensée. Oui, c'est ça. Mais c'est aussi une pensée magique, si vous voulez. Donc c'est se rendre invisible sous ce chapeau. chapeau, et c'est une métaphore aussi, se cacher. Il n'a jamais porté l'étoile jaune, il s'est caché donc pas loin de Chinon. Il a disparu, et là, je l'accompagne dans ce dernier voyage. Où
il est encore caché.
Il est encore caché.
Dans le fourgon.
Tout se passe dans des lieux clos, d'abord dans ce corbillard, et après dans cette clinique du docteur Borg. C'est un univers complètement mystérieux. Il semble être le seul patient qui est là, mais dans une des salles, il retrouve les enfants qu'il a peints. Une sorte de tribunal des enfants, ça s'appelle la conjuration des garçons pâtissiers, qui l'incite à la révolte contre le docteur Borg, qui lui ordonne presque de reprendre le pinceau, de recommencer à peindre. Et il le fait dans un local de chauffage, dans un souterrain de la ville. C'est une sorte de cave, la chaufferie, où il trouve des déchets de peinture, des tubes écrasés, des toiles pourries. Et il recommence dans ce souterrain de la ville, il recommence à peindre. Mais il sera puni, il sera chassé du paradis blanc, en quelque sorte. Donc c'est une parodie de ce qui s'est passé dans la Bible.
C'est la question de l'onirisme aussi que vous abordez. Au bout d'un moment, plus on avance avec ce fourgon, plus la frontière entre le rêve, le fantasme morphinique devient floue. Et c'est au fur et à mesure, on a l'impression que même le narrateur, on ne sait plus trop qui parle.
C'est très bien observé, c'est ça. Le côté onirique du livre est évident. Donc le lecteur aussi, en quelque sorte, sous l'influence de la morphine, ou sous l'influence de ce délire, je voudrais qu'il soit caché aussi dans le fourgon mortuaire et qu'il accompagne le peintre jusqu'à Paris. Et bien sûr, il y a ce côté fantasmagorique, onirique, est très très important pour le roman. C'est même le centre de mon roman. Tout ce qui se passe dans cette obscure, non pas obscure, dans cette clinique blanche, dans ce paradis blanc, c'est là le centre du roman. Non pas la biographie, les faits biographiques, mais ces événements dans cette clinique où il ouvre des salles et où il retrouve des bribes de son existence, une poupée par terre. Il a peint pas mal d'enfants avec des poupées, qui sont des enfants vieillards au visage ridé. Les poupées aussi, ce sont des petites momies ridées. Et il trouve des éléments de sa vie. Il trouve aussi dans une des salles tous les tableaux qu'il a détruits. Donc c'est étrange.
Ils sont légion. On a l'impression que les tableaux se substituent à l'homme petit à petit. Finalement, il n'y a plus que ça. D'ailleurs, même dans le fourgon, on ne sait pas trop. Vous répétez cette phrase. On ne sait pas. Il n'y a peut-être que les tableaux. Il y a l'homme ou peut-être que les tableaux, puisqu'on ne fait plus trop la différence non plus.
Oui, et j'écris « Personne ne connaît la route ». On ne connaît pas la route du fourgon mortuaire, mais on ne connaît pas... en tant que lecteur, vous ne savez pas où vous êtes. Est-ce que je suis encore dans la clinique? Je suis dans ce corbillard? Où suis-je maintenant? Et c'est ça la dignité de la littérature, de créer cette incertitude, ce flot onirique, ce voyage à travers les paysages français, vers ce paradis blanc.
Et ce flot onirique, vous l'assimilez à la question de la couleur chez Soutine, qui est la question peut-être fondamentale. Le blanc qui ne peut jamais être complètement pur, ouais. La couleur, que fait la couleur, la couleur, la non-couleur. Et là, on a l'impression que c'est toute la question de l'existence qui est posée dans la couleur.
Tout à fait. Il y a un contraste dans le livre, dans presque tous les chapitres, entre le rouge et le blanc. Le blanc clinique pur, qui n'existe jamais chez Soutine, c'est un blanc strié, parcouru par des petits traits de couleurs. C'est un blanc très riche, où il y a du bleu, du vert, du rouge. Le blanc pur, c'est la mort, c'est la clinique, c'est l'univers hospitalier. Et c'est ce contraste-là, parce qu'il ne supporte plus, dans ce paradis blanc, il ne supporte plus cette blancheur. Il a besoin, il est peintre, il est coloriste, il voudrait retourner vers un état qui lui permet de peindre, d'appliquer la couleur sur la toile. Et dans cette cave, dans ce local de chauffage, de chaufferie, il recommence, il reprend le rouge. Le rouge, c'est la vie, c'est le sang, c'est le tissu du corps humain ou animal. La couleur, c'est la vie, c'est ça le message. Et le blanc, c'est la mort.
C'est la mort et c'est ce paradis. Petit à petit, il avance vers sa propre mort. Ouais. Et on sent que son état de conscience change. Mmh. Et on va entendre cette parole d'Henry Miller sur la fin de vie et la lucidité.
J'aime bien cette idée que au dernier moment, quand on est mourant, n'est-ce pas, pour la première fois dans votre vie, vous voyez tous comme il est vraiment. Et c'est, on a vécu 19, n'importe, un siècle, n'est-ce pas? Ça vaut la peine de vivre pour avoir ce dernier moment d'illumination, à mon avis.
Alors, ce n'est pas vraiment ce qui se passe pour Soutine, mais ce qu'Henry Miller, qui a fréquenté Soutine, ils se sont croisés parmi tous ces artistes. Lui ne faisait pas partie de la colonie des Russes, de la ruche, ni de la cité Falguière, mais ils se sont fréquentés. Et il y a cette question de la mort et de la mort qui offrirait un dernier instant de lucidité. Ralph Dutilly.
Oui, c'est quand même le projet de ce roman. En effet, c'est un dernier voyage, un voyage vers la mort, mais rempli de vie, de couleurs, de jubilation, de la joie d'exister aussi. Donc, je ne pense pas que ce soit un roman très noir et déprimant.
Non, il est blanc.
Il y a la magie de la création, la magie de l'art, les couleurs.
Et Soutine, il est libre, il meurt en homme libre, il n'a pas été arrêté par la Gestapo, il n'a pas été déporté. Quand bien même ce voyage peut-être le tue un peu, en tout cas aggrave son état, il souffre, mais c'est un homme libre.
C'est son âme qui est libre. À la fin, elle survole le cimetière Montparnasse, donc cette âme rit. Il y a le rire de l'âme qui est enfin libérée de l'ulcère gastrique qui...
Qu'il a tant fait souffrir.
Oui, c'est un vol libérateur à la fin, tout à la fin, mais ce n'est que l'âme qui voyage à la fin, donc elle observe tout à vol d'oiseau, une vision de la vie d'en haut, à vol d'oiseau, à distance, et toutes les souffrances sont derrière elle, derrière.
Et il reste peintre jusqu'au bout, puisqu'il se dit qu'il aurait fallu peindre aussi ce voyage, et comment est-ce qu'il l'aurait peint? Et il y a aussi tous les remèdes dont il se rappelle, ceux qui ont été des consolations à cette vie difficile, le lait et Bach.
Oui, donc il vénérait Bach. Henry Miller voulait lui proposer des disques de jazz. Il dit non.
Pour moi, Variation Goldberg.
Il n'y a que Bach pour moi. Et le lait joue un très grand rôle parce qu'il est blanc, c'est un liquide. Donc il a souvent bu du lait pour calmer donc cet acide gastrique, la douleur. Donc le lait joue un rôle très important. Donc un aliment blanc. Et aussi le voyage vers le paradis blanc est guidé par cette obsession du lait aussi. Donc le lait, le blanc, c'est la couleur de l'avenir, c'est la guérison qui sera la mort. Mais quand même, le lait joue un très grand rôle, en effet. Le lait, la poudre de bismuth qu'il a bu, dont il espérait la guérison.
Ralph Dutilly, dans ce roman, il y a aussi une ambition presque médicale de raconter le corps, de raconter le prosaïque. Il y a quelque chose d'un peu joycien dans cette idée-là. Qu'est-ce que vous vouliez faire? C'est l'essence que vous vouliez justement mettre en éveil?
Oui, bien sûr, ça devait être un roman sensuel, justement la plénitude de la vie, toutes les perceptions auditives, visuelles et tout. Mais bien sûr, c'est le côté corporel, physique, joue un très grand rôle. Il y a la douleur qui joue un très grand rôle. La morphine qui calme cette douleur, c'est un roman physique. Vous avez raison de le souligner. Ce n'est pas un roman éthéré comment dirais-je,
c'est pas un roman théorique du tout, non.
Non. Je voulais du vécu, je voulais la plénitude de la vie. Et il y a cette couche théologique du roman qui repose sur la question de la théodicée. Pourquoi Dieu permet autant de souffrances, de douleurs, de misères, s'il est omniscient, omniprésent, etc. Donc il y a beaucoup de questions théologiques aussi. C'est une couche théologique dans le roman qui est très importante pour moi. Et donc avec l'apparition du docteur Bog, alias Dieu, c'est très important. Il parle comme un médecin. Et en allemand, il y a une expression, un Dieu en blanc, c'est un médecin. Et bon, j'ai fait relire le roman par 3 médecins avant de le publier. Donc il faut médicalement que ce soit exact pour la péritonite, pour la perte de sang, pour la fièvre.
D'ailleurs, vous faites des allers-retours dans le temps. On raconte ce qui finalement aurait pu guérir ou ce qui aurait pu raconter les origines de l'ulcère. C'est les seuls passages qui sont a posteriori.
Oui, parce que le docteur Bog a cette perspective, il connaît l'avenir, donc il dit, il dit au peintre, est-ce que l'année 83 vous dit quelque chose? Est-ce que les noms de John Robin Williams vous disent quelque chose? Ce sont des chercheurs australiens qui, en 83, ont découvert la bactérie qui déclenche l'ulcère, donc le Helicobacter pylori, qui apparaît comme un personnage presque dans son roman. Et donc, le côté médical est très important, parce que Dieu est représenté comme médecin, donc comme Dieu en blanc, justement. Et c'est le côté grotesque aussi de ces dialogues avec le peintre sur des questions sur les plaques rouges, par exemple, qui sont des cellules mortes, mais qui transportent encore de l'oxygène. Donc, tout ce qui se passe dans notre corps, il y a beaucoup, et le docteur Bog dit, il y a beaucoup de morts dans la vie. Il y a beaucoup, nous sommes parcourus par un flot de cellules mortes qui transportent encore de l'oxygène. Donc, c'est les plaques rouges. Il y a une explication des plaques rouges. Nous sommes encore dans la couleur de Soutine. Le rouge, Soutine est très important. Donc, le rouge de la vie, les tissus.
Merci Ralph Dutli. Je rappelle que Le Dernier Voyage de Soutine vient de paraître aux éditions Le Bruit du Temps. Rendez-vous demain pour une nouvelle grande table d'été. L'émission d'aujourd'hui était préparée par Thibaut Bécchini, Julien Rosa, Justine Richard et Alexandra Madoyan. À la réalisation Anna El Fakir, à la technique Pierrick Monsigny. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr. Vous aurez aussi accès à quelques lectures par l'auteur sur la page de la grande table d'été.